Bonjour, c'est une vie, une œuvre. Andrzej Wajda, 1926-2016, est un dramaturge, scénariste et réalisateur polonais. Sa jeunesse est fortement marquée par l'histoire de la Pologne, puisque son père, officier, est assassiné à Katyn et qu'il s'engage à 16 ans dans la résistance polonaise, l'Armia Krajowa. La naissance en Pologne de Solidarność, premier syndicat libre des pays de l'Est, fut un bouleversement. Andrzej Wajda soutiendra et filmera le mouvement depuis ses débuts. Il y met à l'honneur son leader charismatique Lech Walesa, que rien ne prédisposait à faire tomber le régime, première brèche qui allait provoquer en 1989 la chute du communisme. Tout de suite, Dominique Pruchak et Anna Schmuck signent une vie, une œuvre, Andrzej Wajda.
Niech pani mnie posłucha.
Przecież to nie o to chodzi. Proszę pana, ja mam w tej chwili takie kontakty, takie materiały. Przeprowadziłam kilka rozmów. Przecież to jest taki materiał, który może dać niespodziewane efekty. Rozumie pan? Ja uważam, że jest to temat, na który może nas interesować. Młodzież, pana!
Pani Agnieszko!
W Człowieku z marmuru, pierwszy korytarz w telewizji, ten pierwszy długi dialog, wszystko jest improwizowane.
Dans l'homme de ma, là où il y a la première scène, dans le premier long couloir, le très long monologue, tout est improvisé.
A to był mój pierwszy dzień zdjęciowy w życiu.
C'était ma première journée de tournage de ma vie.
Et tous les gens dans la télévision disent c'est le couloir de Janda.
28. A pani ma 21 dni do końca zdjęć.
Słyszę pan!
Il faut savoir que Wajda était très très populaire en Pologne. Il était connu comme un, entre guillemets, cinéaste résistant. J'ai vu des gens lui baiser la main dans la rue, des passants, et il était considéré comme presque la figure de proue, ensuite avec Walesa, de la résistance polonaise et de la Pologne. Et un jour, j'étais à Paris, c'était pendant la préparation du tournage de Danton. Et dans une brasserie près de la Bastille, je déjeunais avec Godard. Et je vois rentrer Wajda dans le restaurant. Elle n'avait pas rendez-vous, elle ne savait pas que j'étais là. Et je dis à Godard, tiens, regarde, il y a Wajda qui arrive. Et Godard me dit, qu'est-ce que je fais ? Je vais lui baiser les pieds. À ce point-là, c'était... Vraiment, on avait une espèce de vénération pour lui parce qu'on savait avec quelle peine et avec quelle difficulté il travaillait. Et quelle rouerie, quelquefois, quelles astuces il devait utiliser.
Mais c'est surtout la curiosité que Wajda avait toujours. Il aimait bien écouter les choses qu'il ne comprenait pas. Ce n'était pas quelqu'un qui voulait dialoguer. Non, il voulait toujours apprendre. Et c'est sa curiosité de la vie était formidable.
Il a fait peut-être plus que les autres pour changer la conscience de sa nation.
Andrzej Wajda, un artiste citoyen, par Dominique Prusak et Anna Schmuck.
Les rêves de sa jeunesse étaient être peintre. Mais très tôt, il a compris qu'il n'aime pas la solitude, obligatoire pour les peintres qui travaillent dans la solitude. À ce temps-là, il changeait son métier. Il est devenu le cinéaste, mais comme le cinéaste, il se sentait toujours comme un peu le peintre.
Je le vois avec le petit carnet, avec un stylo, toujours, même dans la salle de concert, la philharmonie, et toujours, soit il dessinait quelque chose, soit il notait.
Andrzej Wajda était surtout l'artiste. Et il traitait le travail du cinéaste comme le travail dans l'art.
Tadeusz Lubelski, historien du cinéma polonais.
Mais avec le temps, il est devenu aussi un cinéaste citoyen. Et c'est la différence entre ce premier film, traité par lui comme film polonais, pour les Polonais, mais avec le temps, grâce à la force de son talent, ce cinéaste polonais est devenu aussi le cinéaste mondial.
Margaret, vous avez un portrait dessiné par Andrzej Wajda dans votre bureau ?
Oui.
Margaret Ménégoz, productrice des films du Losange.
C'est le portrait de Gérard Depardieu en Danton, parce qu'Andrzej, il dessinait sans arrêt, sans arrêt. Quand on allait au théâtre en France, il ne comprenait pas le français, mais il s'intéressait à la scénographie, il dessinait les scènes, il dessinait les acteurs, il dessinait le décor. Quand on allait au cinéma, quand le film était en français, ça ne le dérangeait pas, parce que ce n'est pas tellement le dialogue qui l'intéressait. C'était le travail de la mise en scène, des décors, du maquillage, enfin tout ce qui fait l'image d'un film.
Vous avez senti le peintre chez lui ?
Ah oui, complètement. Il piquait les expressions du visage, dessinait beaucoup de portraits et d'attitudes physiques des acteurs au théâtre ou dans la rue ou dans un restaurant, les attitudes des gens appuyer les coudes sur la table ou pas. Il vivait avec un carnet et un crayon.
Ja przeczytałem w dzienniku, że otwierają Akademię Sztuk Pięknych. No, i Akademia, pomyślałem, bo ja lubię rysować. Niech cię obejrzy.
Il a perdu son père très jeune. Son père est mort à Katyń, comme des milliers d'officiers polonais. Et Wajda s'est retrouvé avec sa mère à Cracovie.
Ania Szepanska, historienne du cinéma.
Et en 46, il a 20 ans, et il rêve de reconstruire la Nouvelle-Pologne. Et pour cela, il va s'inscrire à l'Académie des Beaux-Arts de Cracovie, où il va faire des études donc, de dessin, de peinture, de sculpture. Et c'est quelque chose qui va accompagner aussi toute son œuvre, puisqu'il ne va cesser toute sa vie durant de dessiner, à la fois pour préparer ses films, les scènes qu'il va filmer ensuite. La peinture fera également partie de sa vie, à la fois comme quelque chose pour préparer l'univers esthétique dans lequel il va penser ses films, mais aussi les personnages d'artistes vont être très importants dans sa filmographie.
Dziesiąta rocznica urodzin generalissimusa Józefa Stalina obchodzona była uroczyście i radośnie przez setki milionów prostych ludzi na całym świecie.
Co było ważne?
À l'Académie des Beaux-Arts, nous n'étions pas contents de la façon dont on enseignait. On contrait souvent nos professeurs. Et c'est quand j'ai quitté l'Académie pour l'école de cinéma de Łódź, et quand le temps a passé,
que
j'ai compris que toute ma véritable formation artistique, mon regard sur le monde et aussi ce que je suis devenu comme réalisateur de films se sont construits à Cracovie et non à l'école de cinéma de Łódź. À l'école de cinéma, j'ai appris la technique, à travailler en équipe. Et je suis convaincu que mes convictions esthétiques et même ma vision du monde en général se sont forgées grâce à nos confrontations et nos combats à l'Académie des Beaux-Arts.
Il a quitté cette Académie des Beaux-Arts pour se retrouver à Łódź. C'est à Łódź qu'a été fondée la nouvelle école de cinéma. Et il s'est retrouvé donc étudiant dans cette école de cinéma en 1949. Alors c'était la pire période pour faire du cinéma en Pologne. La période 1949-1953, période pendant laquelle il a fait ses études de cinéma, la période dite du réalisme socialiste, donc une période où la production cinématographique a chuté, le rôle de l'idéologie a augmenté aussi, était très contraignante, très peu de scénarios passaient la censure, et ce réalisme socialiste qui avait ses racines dans l'URSS des années 30 devenait tout à coup, pendant quelques années, pendant cette période stalinienne très dure, le modèle artistique unique possible pour les cinéastes polonais.
Tadeusz Lubelski, quelles ont été les principales étapes de la carrière d'Andrzej Wajda?
On peut dire que ce sont quatre phases générales de la carrière. Dans la première, Wajda se sentait le membre d'un courant appelé en Pologne l'école polonaise de cinéma. C'était ses quatre premiers films. Génération, Canal, Centre et Diamant et Lotna. Dans la deuxième phase ou deuxième étape, il se sentait surtout l'ambassadeur de la culture polonaise, essayant d'adapter dans ses films les œuvres les plus importantes de la littérature polonaise, jusqu'à Pantadeusz de Adam Mickiewicz. Troisième étape, quand il sentait qu'il est venu le moment pour faire quelque chose d'important pour la politique, pour l'histoire de son pays, il se sentait le citoyen ou le cinéaste citoyen. Et ce sont les films historiques, surtout la trilogie entre l'homme de marbre, l'homme de fer et l'homme d'espoir, Wałęsa. Mais il y a aussi la quatrième partie ou quatrième phase de la carrière cinématographique de Wajda, où il le sentait surtout cet artiste, alors quelqu'un qui observe les secrets de la condition humaine. Et ce sont surtout ces adaptations des contes de Jarosław Iwaszkiewicz, Le Bois de Boulot, Les Demoiselles de Wilko, Tatarak. Mais il faut se rappeler qu'il était aussi l'homme de théâtre. Il faisait plus de pièces de théâtre que de films. Il faisait 50 mises en scène théâtrales dans sa vie, et 40 films.
Ekrany kin polskich wchodzi film Popiół i Diament, zrealizowany według znanej powieści Jerzego Andrzejewskiego. Reżyser Andrzej Wajda, zarazem współautor scenariusza. Operator Jerzy Wójcik. Zbigniew Cybulski i Ewa Krzyżewska, studentka Krakowskiej Szkoły Teatralnej, grają główne role.
Wajda commence à avoir une place dans le cinéma polonais à partir de 1955. Il va réaliser là son premier film, qui s'appelle Génération, et ensuite il va enchaîner très rapidement avec Canal, 1957, et Cendre et Diamant, 1958. C'est ce qu'on appelle, en histoire du cinéma, la trilogie guerrière d'Andrzej Wajda. Ces trois films sont consacrés à la Seconde Guerre mondiale. Les héros, l'action se passe entre 1942 jusqu'à le premier jour de l'armistice, le 8 mai 45. Et ce sont trois films qui tentent de mettre en scène, d'interroger la tragédie à la fois du peuple polonais et la tragédie des héros de la Seconde Guerre mondiale. Donc ce sont trois films qui posent la question du sacrifice, qui posent la question, est-ce que ça valait le coup, finalement, de se sacrifier en faisant partie de la résistance ?
Michał.
Michał ! Wraca !
Le public international le découvre au Festival de Cannes où il reçoit le prix pour Canal, c'est en 1957. Canal, ça veut dire les égouts en polonais. Le film est traduit en français par « Ils aimaient la vie ». Que raconte ce film et pourquoi marque-t-il tant les esprits ?
C'est une sorte d'odyssée héroïque qui se passe dans les égouts. C'est l'histoire d'une unité, 43 insurgés, pendant l'insurrection de Varsovie, en 1944. Donc ce film se passe quasiment entièrement dans l'obscurité. C'est aussi un grand défi cinématographique. Et c'est un film qui a été un véritable tournant dans sa filmographie.
Voici le palmarès du 10e Festival international de Cannes.
Andrzej Wajda a 31 ans. Et à 31 ans, il reçoit la Palme d'Argent, ou Prix du Jury, c'est ainsi qu'on l'appelait à l'époque, ex aequo avec le 7e Sceau de Bergman. C'est une énorme, évidemment, reconnaissance internationale pour ce jeune cinéaste.
Prix spécial du jury. Ils aimaient la vie, Pologne. Et ex aequo, le septième saut, Suède.
C'est aussi un film qui lui permet de rencontrer la critique française, et notamment les journalistes et les critiques de Positif. Et il va y avoir une sorte de coup de foudre entre la revue Positif et le cinéaste. Vaïda est une personnalité qui fascine, mais qui à la fois étonne, c'est une sorte d'énigme. On parle de personnalité déconcertante. On dit qu'il émane de lui une sorte de politesse appuyée des pays de l'Est, et en même temps une sorte de colère, de violence. Le critique Ado Kirou compare Vaïda à Buñuel. Il dit qu'il a une attitude cassante à la Buñuel. Vaïda est le cinéaste de demain. Vaïda est le cinéaste de l'essentiel.
Andrzej Wajda, Varsovie, 23 septembre 2013.
On ne peut pas faire de l'art national qui serait uniquement pour nous, que nous serions les seuls à comprendre, uniquement en polonais, en pensant que ce serait inutile aux autres pays. Ce n'est pas vrai. J'étais déjà ici à Łódź, c'était en 1949. J'y ai commencé mes études. Oui, les premiers films de l'école polonaise du cinéma sont sortis dans le monde. Mais c'est grâce à nous. C'est comme ça que nous pouvons nous mesurer avec le monde. Grâce à cette diffusion, des films de valeur sont nés. Nous ne regardions pas si c'était un copain de l'école, ou son pote qui en était l'auteur, ou si les journalistes écrivaient sur ces films sans conviction. Non. Malgré tout ça, depuis tout le début, le cinéma polonais a toujours tendu la main au monde.
Moi, ce qui m'a plu chez lui, c'est qu'il trouvait que les artistes devaient rester en Pologne. Il était très contre le système Polanski est parti, Zulawski est parti, et il dit s'il n'y a plus personne en Pologne, ils feront ce qu'ils veulent. Il faut qu'on reste et qu'on essaye de faire nos films en Pologne.
Ania Szepanska, Andrzej Wajda a tourné beaucoup de films pendant l'époque communiste. Alors, comment peut-on réaliser un film et le financer dans un régime totalitaire, et comment ne pas être dépendant d'un tel régime?
Pour moi, Andrzej Wajda était une sorte de Ulysse rusé. Il avait cette qualité politique qu'on appelle en grec métis, qui est cette capacité à tirer profit des circonstances. Il avait un flair. Il sentait le sujet qui pouvait tout à coup advenir et bouleverser le public, mais le sujet aussi qui pouvait être toléré par le pouvoir communiste. Andrzej Wajda avait une sorte de capacité à allier le courage politique, la persévérance, la détermination et en même temps une prudence. Ce n'était pas faire ami-ami avec le pouvoir. Ce n'était pas se compromettre. C'était au contraire rendre son courage pragmatique et transformer cette volonté, ce courage politique, en quelque chose d'efficace. Et pour être efficace, on ne peut pas simplement être courageux, il faut aussi prendre en compte un rapport de force, une situation politique. Alors on dit souvent que la force de Wajda a été de contourner la censure, de jouer avec la censure. Pour être précis, il respectait beaucoup les censeurs, il ne les prenait pas pour des idiots. Les censeurs n'étaient absolument pas des idiots. Donc, lorsqu'il propose, par exemple, dans Kanao, de montrer les bords de la Vistule, sans aucun commentaire, à la fin de l'insurrection de Varsovie, les spectateurs polonais comprennent tout de suite que ce plan, où on voit simplement les bords de la Vistule, désigne la présence de l'armée soviétique, qui est là, mais qui ne va pas aider les résistants polonais et qui va rester sur le bord de la Vistule. Ce plan, devenu un peu mythique dans la filmographie de Wajda, montre très bien à quel point on peut montrer les choses sans les dire. Et bien sûr que les censeurs, comme tout spectateur polonais de l'époque, avaient compris cela. Mais ils ne pouvaient pas interdire un plan où on voit simplement le bord de la Vistule.
Zmienia się krajobraz pod krakowski. tam, gdzie do niedawna rozciągały się łąki, wyrasta najpotężniejsza inwestycja planu sześcioletniego – Nowa Huta. Przybycie prezydenta Bieruta było wielkim świętem dla załogi kombinatu. Wzruszające powitanie, oklaski, pierwsze uściski dłoni. Nie jeden z nich marzył o tej radosnej chwili.
La grande finesse aussi diplomatique d'Andrzej Wajda, c'est de ne jamais rentrer finalement dans la vision occidentale des pays communistes et d'avoir conscience que le parti, ce n'était pas un monolithe, ce n'était pas un bloc. Dans le parti, il y avait des gens plus ou moins libéraux, des gens qui voulaient faire évoluer le parti, faire évoluer la situation polonaise, et évidemment, il y avait la frange dure du parti. Et Wajda a toujours pris soin de ne pas caricaturer, de ne pas simplifier la politique de son pays, en montrant que c'est en négociant avec la frange plus libérale du parti qu'on peut faire avancer ce système.
Jerzy Radziwiłłowicz, vous êtes successivement l'homme de marbre et l'homme de fer dans deux films majeurs d'Andrzej Wajda. L'homme de marbre a été tourné en 1976, donc quatre ans avant la reconnaissance officielle par le pouvoir communiste du syndicat libre Solidarité, en août 80. Pendant le tournage, pensiez-vous à l'époque que ce film était déjà une brèche dans ce système en place, dans ce système clos, où tout le monde était sous contrôle? Est-ce que vous pensiez que c'était un film qui pouvait expliquer qu'un jour ce système tomberait?
Est-ce que vous connaissez quelqu'un dans le monde entier qui, en 1976, croyait ou pensait aux événements qui se sont produits quatre ans plus tard? Moi, je suis pas un prophète. Comment pouvais-je penser aux choses qui allaient se produire quatre ans plus tard?
Znajdujemy się na terenie największej budowy planu sześcioletniego. Tutaj, na polach podkrakowskich, powstaje wielki kombinat Nowa Huta.
Ce scénario sur Stachanowiec, sur l'ouvrière simple de l'époque stalinienne en Pologne, une jeune réalisatrice qui veut réaliser son film sur lui, attendait déjà des débuts des années 60. Mais la réalisation de ce scénario était impossible à cause des censures, bien sûr.
Et là, on parle de l'homme de marbre.
De l'homme de marbre. Le scénario fait l'année 62. C'était le scénario écrit pour Wajda, personnellement. Alors, après 14 ans, au début de l'année 76, la réalisation de ce scénario est devenue possible. Wajda profitait de cette situation et voilà, il réalisait les films prévoyant la naissance de Solidarité.
Il faut préciser que si l'homme de marbre a été réalisé, c'est aussi parce qu'une partie du pouvoir veut revenir de manière critique sur ces années 50. Les nouveaux dirigeants, ceux des années 70, veulent tout à coup critiquer leurs prédécesseurs et autorisent Wajda à faire un film aussi critique que l'homme de marbre.
Co pan? Sto! Jeszcze raz robimy.
Dans l'homme de marbre, Andrzej Wajda attaquait la manipulation de l'ouvrier faite par le pouvoir communiste dans les années 50. Il dénonçait le stakhanovisme, c'est-à-dire cette manière qu'on avait de forcer l'ouvrier à produire toujours plus et à transformer les ouvriers modèles, qu'on appelait les ouvriers modèles, donc sur le modèle du stakhanovisme, et à les ériger en modèles, puis à s'en débarrasser. Donc l'homme de marbre dénonce cette manipulation du pouvoir et dénonce cette utilisation idéologique, politique, du travail des ouvriers.
Wesoło, wesoło,
dech. Pas
patrzymy na trud ich sprawnych rąk i zdajemy sobie wszyscy sprawę z tego, że nie mielibyśmy tak wspaniałych osiągnięć, gdyby nasza bohaterska klasa robotnicza nie pracowała tak ofiarnie dla swojej.
Tadeusz Lubelski, peut-on considérer que Andrzej Wajda était visionnaire?
C'est l'homme de marbre qui est le plus important, qui, on peut dire, prévoyait ou accélérait le courant de l'histoire. L'homme de fer, c'est un peu autre chose. C'est un peu le film de commande des ouvriers polonais après la naissance du mouvement Solidarność. Et après la réalisation de ce film de commande, on peut dire effectivement la future destruction du mur de Berlin est possible.
Personne ne peut douter de notre volonté de servir les intérêts de notre classe ouvrière, de notre peuple, de notre patrie socialiste, de la République populaire de Pologne. Nous allons maintenant procéder à la signature des documents.
Sont prêts.
Signons, messieurs.
Août 80, ce sont les plus grandes grèves de l'histoire de la Pologne, mais aussi de l'histoire européenne. On est à Gdańsk, au chantier naval de Gdańsk, et la classe ouvrière décide d'arrêter le travail et de convoquer le pouvoir communiste. Ce sont les fameuses grèves qui vont donner naissance au premier syndicat libre et autonome, Solidarność, dirigé par Lech Wałęsa, Lech Wałęsa. Quelque chose qui n'a jamais été vu dans le bloc socialiste. C'est une première qu'un syndicat puisse être autonome, libre, indépendant du parti communiste. Et pendant ces grèves, Wajda se rend au chantier naval de Gdańsk. Il veut rencontrer les ouvriers. Et lorsqu'il arrive au portail, on ne laisse pas passer tout le monde, bien évidemment, mais on voit Andrzej Wajda. Et Andrzej Wajda est alors pour les ouvriers l'auteur de L'homme de marbre, qu'il a réalisé 4 ans auparavant. Et la grande légende dit, c'est un peu un mythe, mais que l'on se plaît à répéter et que je vais me plaire à répéter aussi, c'est que Wajda donc se promène dans ce chantier, se rend vers l'endroit où se passent les discussions, les débats, pour rejoindre Lech Wałęsa, et un ouvrier l'interpelle pour lui dire « Monsieur Andrzej, panie Andrzeju, est-ce que vous pourriez faire un film sur nous les grévistes de Gdańsk ?» Et c'est ainsi que naît l'idée de l'homme de fer.
Que Dieu bénisse tous ceux qui sont rassemblés ici pour célébrer ce mariage et qu'il leur accorde sa protection au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Krishna Yanda, dans L'homme de fer, vous vous mariez avec Maciek, le fils de Birkut.
Soyez heureux.
Merci. En présence de Lech Wałęsa et de Anna Valentinowicz, les deux héros de Solidarność. Comment s'est passée cette scène?
Beaucoup de bonheur, Anna.
On les a amenés, ils n'étaient pas du tout au courant de ce qu'on leur demandait. Wałęsa était même convaincu qu'il s'agissait d'un véritable mariage. Il m'a félicité en tant que la mariée et ils sont repartis parce qu'ils avaient d'autres obligations.
J'apprécie que vous soyez venu.
C'est naturel.
Merci.
Je vous souhaite beaucoup de joie dans la vie que vous avez choisie et qui n'est peut-être pas la plus facile comme vous vous en rendez compte. Mais sachez bien que si jamais vous rencontrez des difficultés, votre témoin sera toujours prêt à vous aider dans toutes les circonstances.
Nous savons, merci.
A potem go zapytali, co o mnie myśli, powiedział w jakiejś gazecie, bardzo miła kobieta. Après, on lui a demandé ce qu'il pensait de moi, et il a dit, bah, c'est une femme très agréable. W ogóle nie wiedział, o co chodzi. Il ne comprenait pas ce qui se passait.
Donc, en vous écoutant, j'ai l'impression que on naviguait entre la fiction et le documentaire, le réel.
Znaczy, po pierwsze, w Człowieku z marmuru używa
premièrement, en ce qui concerne l'homme de marbre, Andrzej utilisait des films documentaires, des vrais, n'est-ce pas? Nos prises de photos, il fallait les adapter à ces matériaux documentaires. Et dans L'homme de fer, qui était tourné 6 mois après les événements, il était naturel qu'on tourne comme si c'était un documentaire, à la manière d'un documentaire.
Cały problem polegał na tym,
le clou du problème était d'avoir la conscience de procéder à une appréciation, une évaluation de l'histoire très vite après les faits. Et Andrzej se chargeait de ça, prenait cette responsabilité.
Pamiętam, że zatrzymywali nas ludzie, powiedzieli, jak skłamiecie, to was powiesimy na latarniach.
Je me souviens, parfois les gens nous disaient, si vous mentez dans le film, on va vous pendre sur un lampadaire. Donc les gens qui avaient vécu donc ces événements-là, ils venaient, chacun venait voir Andrzej pour lui raconter son histoire. Je me souviens que parfois ils soulevaient leurs vêtements pour montrer les traces de leurs blessures. Hein. Donc après les événements de Gdynia, c'était en 76, je crois.
Krisztyna Janda, vous souvenez-vous de moments forts pendant le tournage de L'Homme de marbre et de L'Homme de fer, des moments que vous avez vraiment encore à l'esprit parce qu'ils ont été très puissants dans ce qui s'est passé pendant le tournage?
Tout simplement, le fait de tourner était très fort pour moi, c'était l'essentiel.
To był cud, że te filmy zostały skierowane do realizacji.
C'était un miracle de pouvoir tourner ces films.
I potem czekaliśmy
et
na decyzję,
après, on a attendu l'approbation, n'est-ce pas, le visa. Et c'était ça le moment le plus important.
Pamiętam, że jak wszedł człowiek z marmuru,
par rapport à L'Homme de marbre, les gens étaient tellement intéressés, ils voulaient tellement voir ce film. Des foules se précipitaient au cinéma, mais les cinémas n'affichaient pas le titre. Tout simplement, les gens savaient qu'il y avait L'Homme de marbre qui passait, mais ce n'était écrit nulle part. Et les journaux qui, à l'époque, ont trouvé donc les horaires de cinéma dans les journaux, ils mettaient séance réservée, séance privée.
Krisztyna Janda, vous souvenez-vous de la chanson qui termine L'Homme de fer? Que raconte-t-elle?
La mort de jeune homme pendant les événements politiques à Gdańsk. Chłopcy z Grabówka, chłopcy z Chylonii, dzisiaj milicja użyła broni. Dzielnieśmy stali, celnie strzelali, Janek Wiśniewski padł. Na drzwiach ponieśli go świętojańską, naprzeciw czołgom, naprzeciw tankom. Chłopcy stoczniowcy, pomścijcie drucha, Janek Wiśniewski padł.
Chłopcy z Grabówka, chłopcy z Chylonii, dzisiaj milicja użyła broni. Dzielnieśmy stali, celnie rzucali, Janek Wiśniewski padł. Na drzwiach ponieśli go świętojańską, naprzeciw glinom, naprzeciw tankom. Chłopcy stoczniowcy, pomścijcie drucha, Janek Wiśniewski padł. Lecą petardy, ścielą się gazy, na robotników sypią się razy. Padają dzieci, starcy, kobiety, Janek Wiśniewski padł.
Jerzy Radziwiłłowicz, pendant le tournage de L'Homme de fer en 81, sentiez-vous un vent de liberté souffler sur le tournage, puisqu'il y avait eu la création de Soy d'Arnoch?
Oui, absolument, on le sentait tous. Ça veut dire, c'était une période entre fin août, alors à fin de la grève, et le 13 décembre 81, ça veut dire le début de l'état martial. On appelle ça le carnaval de la solidarité. Et c'était vraiment quelque chose comme le carnaval dans ce système de contrôle, ce système dur, totalitaire. On vivait vraiment pendant ces, je sais pas combien, 15 mois ou 16 mois, on était libre autant qu'on pouvait, parce que au début de la grève, il n'y a pas d'information, la télé, la radio, la presse n'en parlait pas. Un peu plus tard, deux semaines plus tard, ils ont commencé à en parler parce que le pouvoir n'avait pas d'autre issue. Hein. Et puis on regardait tous à la télé le 31 août la signature de ces actes entre les Wałęsa et le vice-premier ministre. On regardait tous ça à la télé. C'était un moment absolument incroyable. On avait tous ces sentiments. Et on savait bien qu'on ne peut vraiment faire confiance à ce pouvoir. Alors, je crois que Kanji Wajda le savait très très bien. Et c'est pourquoi aussi il voulait que ce film se tourne très vite. Qu'il soit fait, qu'il soit prêt, qu'il soit tourné, achevé. Parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver. Et bien évidemment, cette crainte n'était pas sans raison, parce que en décembre 81, le pouvoir dit son dernier mot, disons. C'est le dernier cri de ce pouvoir. Alors l'état martial, la guerre.
Monsieur Winkel. Monsieur Winkel. Eh ben alors quoi, vous en faites une tête. Faut surtout pas vous en faire, ça va rien changer. Il sera facile de prouver que cet accord a été obtenu par la contrainte et n'est donc pas valable. Ce n'est qu'un morceau de papier.
Ils ont dit à la radio que le téléphone était coupé, que le gouvernement s'était emparé du bâtiment de Solidarność et que maintenant ça n'existait plus. Comme ça qu'on a su, ils ont dit les téléphones est coupé pour pas que qu'ils fassent encore une manifestation. C'est tout, ils ont tout. Et puis il est impossible de.
Jean-Claude Carrière, vous êtes le scénariste du film Danton d'Andrzej Wajda. Comment tout a commencé?
Ça a commencé par une proposition d'Andrzej de travailler avec lui à partir d'une pièce de théâtre qu'il avait adaptée d'un livre d'une femme qui avait écrit un livre sur Robespierre dans les années 20, Stanislava Przybyszkaya, hein, oui, je m'en souviens encore, et c'était une femme étrange parce qu'elle était tombée amoureuse de Robespierre 120 ans après sa mort. Donc, il vient à Paris pour préparer ce film, et il rentre en Pologne, et à ce moment-là a lieu un coup d'État, le coup d'État de Jaruzelski.
On précise que c'est le 13 décembre 1981.
Oui. À la fin de l'année, qui prend le pouvoir, c'est-à-dire en militaire, les militaires prennent le pouvoir, et d'un seul coup, il s'est passé une chose très étonnante, qui ne serait plus possible aujourd'hui avec les moyens que nous avons été coupés de toute communication pendant plus de 2 mois entre la Pologne et le reste du monde. Donc la situation s'est rétablie, entre guillemets, et je crois que j'ai fait partie du premier ou du deuxième avion qui repartait pour la Pologne quand ça a été possible. J'ai amené avec moi quelques notes que nous avions déjà prises sur le scénario, et puis des produits de première nécessité, du jambon, du savon, du détergent, je me rappelle, parce qu'il fallait apporter du détergent à la Pologne qui en manquait. Et je suis arrivé à Varsovie, donc j'avais déjà rencontré Wajda avant, j'habitais chez lui avec sa femme, et il avait une maison assez agréable, et là nous nous sommes mis au travail. Je pense que j'ai dû rester en Pologne un mois et demi ou 2 mois, parce que nous avions déjà une première version du scénario, mais que pendant la dictature militaire, il avait retouché pour taper sur les militaires, et que là, il a fallu remettre en non, il n'y a aucune raison, parce que le général Kellermann n'a pas joué un rôle décisif pendant la Révolution française. Donc, on a retravaillé, et ensuite, il m'a dit, la décision a été prise avec Toscan de tourner le film en France. En Pologne, c'est inconcevable. On va essayer de trouver les moyens pour le tourner en France. Et le scénario a été terminé, le film a été tourné tout à fait normalement. Wajda a fait, je trouve, un travail magnifique. Et Gérard n'a jamais été meilleur, je crois, que dans ce film.
Maxime.
Bonsoir, je vois que je t'ai fait attendre. Excuse-moi.
Oh, mais ça fait rien. Pour une fois qu'on est ensemble, tous les deux. Juste toi et moi.
Est-ce que tout va bien, citoyen?
Oui, oui, ça va très bien, merci. Merci. Tiens, regarde. Tu veux ça?
Non, merci.
Non?
Non.
C'est bon. Et ça? Oh, magnifique, ça.
Non, merci.
Non?
Non, non.
Et ça, une petite caille comme ça, non?
Non, non, merci.
C'est pas empoisonné, tu sais, regarde.
C'est bon,
papa? Non? Mmh. 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 Mais c'est sûr, c'est bon. Assieds-toi. Assieds-toi. Oh. Oh, Maxime. Mmh.
J'ai dit à Angé qu'il fallait qu'on fasse le film en France et qu'il fallait qu'on obtienne un visa pour qu'il puisse sortir de Pologne et que tous les acteurs polonais, parce que le principe était que tout ce qui était le comité de salut public soit des acteurs polonais, mais que Danton soit français comme ça, Wojtek Pioniak a joué Robespierre et Gérard Depardieu, Danton. Et la difficulté pour Gérard était de comprendre qu'est-ce qu'il jouait exactement en jouant Danton. Parce que le scénario était basé sur une pièce de théâtre polonaise. En France, toujours Robespierre était le pur révolutionnaire. Voilà, dans tous les livres d'école, on admirait Robespierre. Et la théorie était que le monde entier aurait changé si Danton avait gagné contre Robespierre, parce que Danton était un libéral, en fait, un démocrate, un libéral. Donc Angé nous a fait, j'ai dit à Angé, il a du mal. Je suis allée avec Gérard en Pologne et Angé a trouvé l'idée de lui faire rencontrer Lech Walesa. Donc on a dîné chez les Vaïda avec Gérard Depardieu, Lech Walesa et les Vaïda. Et Lech Walesa était extrêmement fatigué. C'était pendant le début des événements de Gdansk, un grand leader syndical, et il était épuisé. Et Vaïda dit à Gérard, ben voilà, c'est ça Danton, il est fatigué. Et après, Gérard avait plus besoin d'aucune indication, il avait tout compris du rôle. Parce que dans la grande scène centrale dans le film, dîner au Café Rose entre Robespierre et Danton. Robespierre boit de l'eau, il mange absolument rien, et Danton boit beaucoup, mange beaucoup, et ben voilà. Et puis il est fatigué. Il a une toute jeune maîtresse, enfin tout ça, et donc c'est Robespierre qui a gagné.
Au nom des principes de la Révolution, ils en ont oublié la Révolution elle-même. Ils ont établi une dictature nouvelle plus féroce encore que l'ancienne. Par crainte du retour des tyrans, ils sont devenus tyrans! Tu disais qu'il fallait du sang, que le peuple voulait du sang. Menteur, mensonge, mensonge. C'est pas le peuple qui veut du sang, c'est toi. Le peuple ne veut qu'une seule chose, c'est vivre en paix. Tu n'as pas le droit de lui attribuer le désir de sang qui est le tien.
Danton, tu t'es trahi. Trahi! Seul un comploteur, un ennemi du gouvernement, peut insulter ainsi le tribunal du peuple.
Le peuple n'a qu'un seul ennemi dangereux. C'est le gouvernement.
Oui, oui, oui.
Wojciech Choniak, vous êtes un acteur majeur des films d'Andrzej Wajda. À l'époque, vous ne parliez pas français. Depardieu ne parlait pas polonais, et pourtant, votre rencontre est magique, l'alchimie fonctionne entre vous deux.
Vous savez, on se connaissait avec Gérard, parce que là, on a joué ensemble là, aux Amandiers, donc, puis je tournais avec lui plusieurs films. Sur le tournage, il a bien compris, parce que c'est un grand comédien, et il n'y avait pas de problème de sa part.
Et comment les Polonais ont regardé la terreur qui se dégage dans ce film-là?
Les Polonais ont regardé, par exemple, Robespierre comme Jaruzelski et Danton comme le Walesa. On peut comparer la terreur d'abord. Mais il y a beaucoup plus de victimes pendant la Révolution que pendant Solidarité. Mais vous savez, toujours, on regarde le Polonais surtout. Après le temps du communisme, on a une tendance de voir dans les pièces Shakespeare, Molière, tout ça, de voir le reflet de la situation de leur vie, tout simplement.
Vous magnifiez bien la terreur dans ce film, parce que vous êtes glaçant, notamment la convention. Et la dernière image du film avec cet enfant qui récite les articles des droits de l'homme, c'est absolument terrifiant. Vous, au lit, pratiquement mourant, et cet enfant qui symbolise l'espoir.
Sur le plan psychologique, c'est pas évident. Et petit à petit... J'essayais de pénétrer, de savoir, de comprendre des gens comme lui, glacial. C'est-à-dire, c'est une sorte de fanatisme, vous savez. On voit partout, moi, comme Polonais, j'ai vécu l'époque stalinienne, fanatisme idéologique, vous savez. Lui, il était fanatique, mais il me semble qu'à un certain moment, il s'est rendu compte que ça va nulle part. Et c'est pour ça, cette scène est terrible, magnifique d'ailleurs, j'aime beaucoup cette scène avec le petit garçon. Mais on se demande toujours comment c'était possible. Et donc, ça concerne tout le régime totalitaire, si vous voulez.
Maximilien, mon petit frère a appris quelque chose pour toi.
Article 1er.
Article 1er. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux.
En droit.
Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Article 2. 2. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Article 3e. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui en émane expressément. Article 4e. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a des bornes que celles qui s'assurent aux autres membres de la société la jouissance de ses mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. Article 5e.
Jean-Claude Carrière, comment expliquer que le public français ait adhéré à la Révolution française, vue par un Polonais, bien sûr écrit par vous, mais vue par un Polonais et réalisé par un Polonais?
Ça ne m'étonne pas du tout. On m'avait proposé à plusieurs reprises de faire un film sur la Révolution française avec un metteur en scène français. J'avais toujours refusé. Parce qu'avec un Français, nous avons lu les mêmes livres, nous avons les mêmes clichés, nous avons les mêmes réactions, souvent... Nous n'aurons pas d'autres sources que les nôtres. Tandis que de le faire avec Vaïda, qui vient du monde communiste, qui a sur l'histoire de notre révolution un tout autre point de vue que le nôtre, c'est ça qui me passionnait. C'est-à-dire le croisement des points de vue sur un phénomène historique.
Et lui vous a parlé de son regard sur la Révolution française ?
Oui, non, bien sûr, naturellement. C'est un événement essentiel pour tout le monde, pour le monde. C'est la première fois dans l'histoire du monde que des hommes font des lois. Hein, c'est quand même ça, l'essentiel de la Révolution française, c'est le travail juridique et législatif, qui s'est poursuivi pendant 6 ans, en dépit de toutes les guerres, terreurs, etc., et querelles intérieures. Il y a 3 à 4 000 hommes de loi français qui ont fait des lois sur lesquelles nous vivons encore aujourd'hui. Ça, c'est l'événement majeur, quand même.
C'était une totale surprise qu'on puisse défendre Danton, la position de Danton, comme le bon de l'histoire, et Robespierre, le révolutionnaire admiré par tous, comme le mauvais. Comme dans un western, il y a un bon et un mauvais.
To, co wyrabia w ostatnim czasie aparat władzy, nie ma nic wspólnego z patriotyzmem. Znęcanie się nad patriotami, łamanie podstawowych praw, to są metody naszej władzy.
Je m'appelle Lech Walesa. Après 10 années de travail irréprochable, on m'a mis à la porte des chantiers de Naval. L'année prochaine, nous célébrerons l'anniversaire de la tragédie de 1970. Nous devons ériger un monument. Si le monument n'est pas là le jour anniversaire, que chacun de vous apporte une pierre. Avec les pierres, on aura un monument. Il sera exceptionnel, car la situation était exceptionnelle. Les gouvernements du peuple ont tiré sur le peuple. Nous voulons que la loi l'emporte sur l'injustice. Nous ne voulons plus qu'un Polonais lève la main sur un autre Polonais.
L'homme du peuple arrive finalement un petit peu tard. L'homme du peuple arrive en 2012, dans une nouvelle Pologne. L'homme du peuple est une sorte de portrait de Lech Wałęsa, le leader de Solidarność, celui qui a porté le mouvement de grève en août 80, mais celui qui a porté aussi tout l'esprit, et le projet, l'espoir d'une nouvelle Pologne. Mais je le disais, l'homme du peuple arrive tard, puisque entre-temps, Lech Wałęsa est devenu président. Entre-temps, la Pologne s'est libéralisée. Elle a été confrontée à beaucoup de problèmes économiques, des problèmes de société, etc. Wajda, dans l'homme du peuple, tente de faire une sorte de portrait du grand Walesa, de la bête politique qu'était Walesa. Et finalement, l'homme du peuple, pour moi, n'est pas un film de 2012. Il a été réalisé en 2012. Mais c'est un film qui tente de réactiver le mythe valaisa, la légende, le grand homme, le sauveur. On voit dans ce film la montée, l'ascension de la Valence. On voit très bien ses qualités politiques d'orateur. On voit très bien sa finesse politique, sa capacité à écouter les experts, l'intelligentsia qu'il a soutenu aussi à l'époque. On voit très bien l'intelligence politique de Valéza.
Andrzej Wajda, Łódź, 23 octobre 2015.
Ja mam wrażenie, że każdy polski bohater narodowy, a Lecha traktuje jako człowieka naszych czasów, ceni go.
Je pense que Lech Walesa est un personnage de notre temps. Et je l'admire parce que pour la première fois dans l'histoire de la Pologne, les héros n'appartiennent ni à l'élite intellectuelle, ni à l'élite aristocratique, mais au monde ouvrier. Il me semble qu'on devrait apprécier ce fait, car visiblement notre nation est de plus en plus démocratique. Plus de monde participe à la vie politique. Pour le moment, c'est encore difficile à percevoir, mais ça va dans le bon sens. Et Lech Walesa est un bon exemple, car à l'époque des événements de Gdansk, les communistes ne pouvaient négocier qu'avec un ouvrier.
Żeby znaleźć swoją drogę, nie malujcie jak Mondrian, bo on już to zrobił.
Władysław Strzemiński jest najważniejszym polskim artystą XX wieku.
Przecież pan wie, że kara idzie w danym kierunku.
Naród ma prawo stawiać swoje wymagania twórcom.
Kłopot z panem w carskiej Rosji za coś takiego z punktu na Sybir.
Nie jestem przeciwny, mam tylko...
Alia Szepanska, son dernier film s'intitule Powidoki en polonais. A été traduit par Les Fleurs Bleues en français, peut-on dire qu'avec ce film, Andrzej Wajda boucle la boucle d'un cinéma de liberté?
Son dernier film est un portrait d'artiste, Strzemiński. Portrait d'un peintre qui a commencé dans les années 30, nourri des avant-gardes russes, et qui continue à créer dans la Pologne d'après-guerre.
Do zatracenia granicy między sztuką a polityką.
To po czyjej stronie pan stoi?
Po swojej.
C'est intéressant que ça soit le dernier film d'Andrzej Wajda parce que c'est un film testament qui revient en fait sur sa position d'artiste dans un système communiste. Moi je le vois comme un film qui tente d'interroger justement le compromis avec le pouvoir. Strzemiński est un peintre qui refuse le compromis. Strzemiński est un peintre qui refuse le réalisme socialiste. L'esthétique que le pouvoir communiste tente d'imposer en Pologne en 1949. Il décide de se révolter, de révolter ses étudiants. Strzemiński enseigne aux Beaux-Arts et montre que non, l'idéologie n'a rien à voir avec l'art. Que fait le pouvoir face à un tel rebelle, je dirais, à un tel mouvement d'opposition? Eh bien, le pouvoir communiste décide de l'éliminer à petit feu. Donc, Strzemiński est expulsé de l'Académie des Beaux-Arts. On lui enlève sa carte d'artiste. Et sans sa carte d'artiste, il ne peut plus aller dans un magasin acheter de la peinture. Ce que montre le film d'Andrzej Wajda, c'est à quel point cette opposition frontale est admirable. Elle est nécessaire, mais elle est dangereuse également. Et elle peut mener un artiste à mourir de l'intérieur, à s'éteindre à petit feu.
To tak przeniesiesz
głowę.
Dobra, fajnie. Dobra. O, i króciutko to zrobimy. Uwaga. Gotowi? Tak.
Jean-Claude Carrière, quand vous regardez l'ensemble de son œuvre, qu'est-ce qui ressort de cette œuvre et qu'est-ce qui ressort de lui ?
C'est un grand cinéaste engagé. C'est un grand cinéaste qui a travaillé dans son temps, avec son temps, avec les événements de son temps, puisque même l'écriture de notre scénario a été interrompue par un événement politique, la prise du pouvoir par Jaworski. C'est quelqu'un qui a essayé de comprendre son temps, de le vivre et de le montrer. Ces films seront, à un moment donné, presque comme des documentaires.
Caméra.
Margaret Ménégoz, s'il vous restait une seule image d'Andrzej Wajda, ce serait laquelle ?
Ses grimaces. Il avait une faculté de bouger les muscles de son visage, et quand il n'était pas content, il n'avait pas besoin de crier, etc. Il suffisait de regarder son visage et on avait tout compris.
Finalement, est un homme d'orchestre. Il est vraiment, c'est pas un cinéaste, tout simplement. Mais aussi, il a noté, il a programmé, il est un homme de renaissance, si on peut dire comme ça.
Dernièrement, à la présentation de mon dernier film, le metteur en scène, le réalisateur, a dit qu'il ne croyait pas que l'art puisse sauver le monde. Andrzej, au contraire, il y croyait. Et c'était la principale différence entre lui et les autres. Pour lui, l'art était essentiel.
C'était Andrzej Wajda, un artiste citoyen.
Nie mam teraz czasu dla ciebie. Nie widziała cię długo, matka. Jeszcze trochę poczekaj, dorośnie. Opowiemy ci o tych wypadkach, o tych dniach.
Merci à Jean-Claude Carrière, Christina Janda, Tadeusz Lubelski, Margaret Ménégoz, Wojtek Pszczoniak, Jerzy Radziwiłowicz, Ania Szepanska et Christophe Zanussi.
O tych ludziach, którzy poczuli, że są teraz wreszcie u siebie, solidarnie walczą do dzisiaj i o jutro także dla ciebie.
Więc się avec la voix d'Andrzej Wajda, traduction François Test, Stéphane Combe, Agatha Kozak, Recherche INA, Isabelle Forrendu. Prise de son, Yann Frécy. Mixage, Alain Joubert. Coordination, Christine Bernard. Attaché d'émission, Pascaline Bonnet. Un documentaire de Dominique Prussac, réalisé par Anna Schmuck.
Vous pouvez réécouter ou télécharger cette émission sur le site de France Culture, un site préparé et enrichi par Daphné Abgral et Julia Martin. Tout de suite, à 16h, nous retrouvons Étienne Klein et la conversation scientifique.